Frères et sœurs, les amis, bonne, sainte et joyeuse fête de Pâques à tous et à chacun et toutes vos familles. En pensant très spécialement, bien sûr, à tous les pays de par le monde qui sont en guerre ou qui vivent des divisions, que la Pâque du Seigneur habite leur cœur pour qu'ils puissent continuer à défendre leur liberté avec force, courage et audace. Après ces vigiles pascales où nous avons vécu la joie et le bonheur de baptiser deux adultes, Pascaline et Julien, j'aimerais m'arrêter sur la première lecture, celle du livre des Actes des Apôtres. Même si la tentation de méditer avec vous la seconde lecture du livre de l'Apocalypse, mais pendant plusieurs dimanches, nous allons accueillir des lectures de l'Apocalypse et donc nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, le livre des Actes des Apôtres, écrit par Saint Luc, je vous le rappelle, va décrire l'installation, la construction, l'édification, vous prenez le terme que vous voulez, des premières communautés chrétiennes. Et il va nous montrer des communautés idéales qui nous paraissent presque trop belles, puisque après plus de 20 siècles, nos communautés chrétiennes en sont parfois très loin. Alors nous découvrons dans ce livre des Actes des Apôtres, un certain nombre de tableaux qui décrivent et qui résument la vie de tous les débuts de l'Église. J'allais dire presque de quoi nous faire rêver. Alors, revenons les pieds sur la terre, parce qu'il ne faut pas en déduire que tout était facile, que tout était rose pour les premiers chrétiens. Ils étaient des hommes et non pas des surhommes, ces premiers chrétiens, et des hommes et des femmes comme chacun de nous. Alors la première question que nous pouvons nous poser dans cette brève méditation, c'est pourquoi l'auteur des Actes des Apôtres a-t-il émaillé son livre de ces descriptions et de ces tableaux très beaux, nous montrant de préférence les réussites des premiers chrétiens et des premières communautés. Je pense que Saint Luc veut tout simplement nous encourager à avancer dans le même sens. Pourquoi? Parce que c'est une condition indispensable pour l'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte, c'est d'évangéliser. Et d'évangéliser non pas peut-être d'abord avec nos paroles, mais par notre exemple. C'est comme ça que, j'allais dire, la contagion peut se faire, au noble sens du terme, entre communautés. Nous sommes toujours à Jérusalem, et c'est de là que nous allons retrouver la description de ces premières communautés chrétiennes. Si nous sommes à Jérusalem, c'est que nous ne sommes pas loin de la résurrection du Christ, c'est peut-être encore plus proche dans le temps qui était le leur à ce moment-là. Et plus précisément, nous sommes au temple de Jérusalem sous la colonnade de Salomon. Cette colonnade de Salomon, c'est le côté est du temple, une énorme colonnade bordant une allée couverte très large. Et c'était là un lieu de passage et de rencontre accessible à tous, où on rencontrait tout le monde. Et cette remarque de Saint Luc que nous pouvons noter peut nous éclairer. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Tous les croyants. Ben, cela prouve que après la mort et la résurrection de Jésus, Les apôtres n'ont pas tout de suite cessé de fréquenter le temple. Ils sont juifs et ils vont le rester un bon moment. Leur foi, à la limite juive, n'en est que plus forte, puisque, à leurs yeux, les promesses de l'Ancien Testament sont enfin accomplies. Dans le texte d'aujourd'hui, nous pouvons déjà détecter l'amorce d'une certaine séparation, sous-entendu les chrétiens et les juifs. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Donc on voit ici la délicatesse avec laquelle saint Luc montre déjà que bien l'ensemble de ses croyants ne se retrouvaient peut-être pas forcément autour des mêmes fondements. Oui, saint Luc va nous décrire la prédication de ces premiers temps de l'Église, en l'enracinant, si je puis dire, dans la prédication même de Jésus. Mais plus lointainement encore, en s'inspirant du prophète Isaïe qui annonçait la venue du Messie. Alors, je pense que c'est très important dans la prédication, dans l'annonce de l'Évangile. L'Évangile, le Nouveau Testament, n'est pas arrivé comme ça, sur un tapis volant ou une soucoupe volante. Il est, je vous le rappelle très souvent, le prolongement, point par point, pied par pied, si je puis dire, de l'Ancien Testament. Saint Luc veut donc nous dire que les œuvres de Jésus, les œuvres du Messie, qui vont se prolonger, parce que nous découvrirons dans la lecture des Actes des Apôtres que Pierre, entre autres, va procéder à des guérisons, et certainement d'autres apôtres, nous montrent bien que ces apôtres ou ces disciples vont procéder aux mêmes œuvres que leur maître, aux mêmes œuvres que le Messie. Et que par eux, la présence du Messie continue, comme si les apôtres ont pris le relais. Aujourd'hui, ce relais, c'est nous, c'est chacun, chacune d'entre nous. Et grâce au témoignage des apôtres, comme cela doit l'être pour nous, grâce à notre témoignage, eh bien, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhérer au Seigneur par la foi, nous dit le texte. Ils adhèrent au Seigneur, non pas aux apôtres. Pour nous, c'est la même chose. On ne demande pas d'adhérer à notre propre personne, mais d'adhérer au Christ ressuscité. L'évangélisation, donc, du monde ne se fait pas toute seule. Ou pour le dire autrement, l'évangélisation a besoin d'évangélisateurs. Luc nous dit encore une fois, à bon entendeur, salut. Non pas débrouillez-vous, mais restez fidèles pas à pas dans le sillon que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a creusé. Saint Luc n'attribue pas d'abord les conversions dans son texte aux miracles opérés par les apôtres. Tous les croyants d'un seul cœur, nous dit le texte, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. Et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. Eh bien, je pense que cette première lecture est comme une sorte de feuille de route qui nous est donnée aujourd'hui où nous fêtons la résurrection du Christ. J'allais dire, comme les premiers apôtres, les premiers disciples, elle s'adresse à chacun de nos cœurs. C'est le souhait profond, me semble-t-il, du Seigneur. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Bien, frères et sœurs, cela n'est pas au-dessus de nos forces. Chacun à sa place, là où il se trouve, doit être témoin à sa mesure de ce que nous fêtons aujourd'hui, la mort et la résurrection du Christ. Et pardonnez-moi d'y revenir, témoin d'abord au nom de notre baptême. Le baptême des adultes, de par le monde, qui se font durant la nuit de Pâques ou à l'aurore du jour de Pâques, montre bien que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ressuscité, continue son œuvre et continue à travailler dans le cœur de tous et de chacun, et notamment, bien sûr, de ces nouveaux baptisés. Oui, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ne disons pas que le témoignage ou l'évangélisation, c'est l'affaire de spécialistes. On le voit bien dans le livre des Actes des Apôtres, c'est l'affaire de tous. Et c'est par l'exemple, le témoignage de nos communautés que nous pourrons évangéliser en vérité. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est rose et que tout va très bien. Nous connaissons tous des difficultés de tous ordres, des difficultés de santé, des difficultés de travail, des difficultés tout court. Mais également parfois, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Il y a des sensibilités différentes. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Il nous demande de dépasser tout cela et de regarder véritablement mon frère et ma sœur et la communauté qui accueille de nouveaux croyants, de nouveaux baptisés. Ils sont venus non pas pour nous faire plaisir, mais ils sont venus parce qu'ils ont ressenti cet appel au plus profond d'eux-mêmes : « Viens et suis-moi. » Amen.